Estragini. Mais avant, on écoute Mohamed Lanouf. Le titre, c'est Kima Hasni.
ما نقارديش ولا انتي تضربي هذا الديفو اللي فيا 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 اكوز دو توا خسرت حربي وراضي ميا 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 دوي صفارات الاندار في قلبي ولا شافوا عينيك فيا 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 ونبقى حاسب حتى يديني ربي لا ما ديتكش انتيا وغير قبل المفاوضات راني عايش ابيبي Ben imagine ça sans toi, tu es le tout avec le respire. Merci le bled, il faut ni fiha, ou fin dini tana tire. Il est le khatim, qui m'a compte n'hlem, le dik ma ya la jire. Qui m'a le mahna ta hasni, kharjti li donji. Bet koni sabab ta hasni, ou l'ina le kalb li yemri. Qui m'a le mahna ta hasni.
Actualité internationale, éclairage, c'est dans Zoom.
Zoom sur le monde, avec Liestel Reni.
Les tensions au Moyen-Orient continuent d'alimenter les inquiétudes de la communauté internationale entre les discours difficiles et les rivalités de puissance. Les perspectives d'une désescalade demeurent incertaines dans ce contexte marqué par les rapports de force et les enjeux géopolitiques majeurs. La Chine tente de renforcer son rôle diplomatique sur la scène internationale. Le sujet de l'entretien que nous propose Liestel Reni.
Bonjour Monsieur Alexandre Aoun, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Malgré les récents cycles de négociations, le dialogue entre l'Iran et l'administration Trump semble systématiquement buté sur des méfiances structurelles, alors que des canaux de médiation restent actifs. Dans ce contexte de bras de fer permanent, existe-t-il encore une voie pour une désescalade réelle ?
En effet, depuis maintenant plusieurs semaines, des négociations ont lieu entre l'administration américaine et l'administration iranienne par voie directe ou indirecte avec des feuilles de route qui sont transmises par des médiateurs différents, que ce soit aussi bien le Pakistan, que ce soit Oman dans son rôle de médiateur traditionnel, voire aussi bien le Qatar et l'Arabie Saoudite qui ont maintenu des canaux diplomatiques et de communication avec l'Iran, chose qui n'est pas le cas des Émirats Arabes Unis et de Bahreïn qui ont pris une posture nettement plus ferme à l'égard de Téhéran. Il y a également la Chine qui rentre dans la course aux négociations et en tant que médiateur. Des délégations américaines et iraniennes sont allées à Pékin pour essayer de trouver un accord. Pékin, en fait, martèle depuis le début des hostilités qu'il faut une stabilité pour le commerce international, parce qu'il faut rappeler que le détroit d'Ormuz est un goulot d'étranglement où 1/5 du pétrole passe pour aller vers les marchés européens, voire asiatiques.
Et d'autre part, la rencontre annoncée entre Donald Trump et Xi Jinping suscite beaucoup d'attentes, d'autant que la Chine tente de se positionner comme un garant de stabilité. Cette médiation chinoise est-elle une chance de paix pour la région ?
Je pense que beaucoup de choses vont se jouer lors de la rencontre entre Trump et Xi Jinping, parce qu'il faut savoir que l'Iran est un partenaire important de Pékin et que Pékin souhaite la stabilité dans la zone et que Trump, bien évidemment, souhaite arriver à un accord, mais qui dit accord dit qu'il faudrait automatiquement, est-ce qu'il va aller à l'encontre des intérêts chinois? Donc c'est tout ça, il faut prendre en compte qu'il y a plusieurs soupapes dans ces accords et qu'il faut soit passer du micro au macro pour tenter d'avoir un peu tout le spectre de ces négociations en cours.
Dernière question, êtes-vous d'accord avec certains observateurs qui soulignent une volonté délibérée du gouvernement Netanyahou de maintenir l'état de guerre pour des objectifs politiques internes et régionaux ?
Dans tout ce jeu des négociations, il y a également la pression israélienne qui, eux, souhaitent la reprise du conflit parce qu'ils souhaitent tout simplement annihiler toutes les capacités balistiques iraniennes, parce que il faut savoir qu'il y a un rapport de la CIA qui est passé la semaine dernière qui montrait que l'Iran disposait encore de près de 70 à 80% de son stock de missiles et de drones et tout simplement de lanceurs de missiles aux quatre coins du territoire, ce qui prouve bien que finalement cette guerre n'a pas non plus été une totale réussite pour le bloc israélo-américain.
Merci monsieur Alexandre Aoun d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Moyen-Orient.
Zoom sur le monde avec Liestre Reni.
Une actualité, une situation que Galchi Chaîne 3 suit de près pour vous, pour vous tenir au courant des tout derniers développements. Il est 17h37 minutes. On vous attend au 021 48 15 15 pour le point route à 17h45.
Hey!
Dancing, le titre d'Aaron Smith à 17h41 sur Alger chaîne 3. On reparle économie, l'implantation d'une nouvelle usine qui est toujours une bonne nouvelle pour le développement local et génère de la richesse, des emplois directs et indirects à Homme-le-Boisguil. Les nouveaux projets industriels dynamisent le développement économique. C'est la correspondance de Nassar Benissam.
Le correspondant du jour.
En matière de développement, la wilaya de Moulbogui connaîtra dans les prochains jours le démarrage de la réalisation de deux projets structurants privés, à savoir deux usines au niveau de la zone industrielle Ouled Ghassem Ain Mlila. Le premier projet, sur une superficie de 15 hectares, une usine de pneus, un investissement de 4 800 milliards de centimes, d'une capacité de production dépassant les 2 millions de pneus par an et qui générera 2 100 emplois permanents. Le deuxième projet, également sur une superficie de 15 hectares, une usine de fabrication de batteries de lithium, un investissement de 23 milliards de dinars, d'une capacité de production de plus de 800 000 batteries par an et devant générer 1 050 emplois permanents. Plus de précisions sur ces projets avec Kraimi Rafir, directeur du guichet unique de la wilaya de Moulbogui, relevant de l'agence algérienne de promotion de l'investissement API.
Les pneus constituent un produit très important sur le marché national. Cette unité industrielle aura une capacité de production qui dépasse les 2 millions d'unités par an, pour un investissement de 48 milliards de dinars. Elle permettra également la création de 2018 emplois permanents et directs. Concernant le deuxième projet structurant, il s'agit du projet de production de batteries au lithium. Le projet s'étendra sur une superficie de 15 hectares avec un investissement estimé à 23 milliards de dinars. Sa capacité de production atteindra près de 800 000 unités par an et permettra la création de 1050 emplois directs.
L'attribution du foncier à ces deux projets structurants a été faite à travers la plateforme numérique de l'investisseur de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement.
Nous avons également évoqué les assiettes foncières mises à disposition via la plateforme numérique. Au total, 19 projets d'investissement ont été publiés sur cette plateforme de 2024 à ce jour. Actuellement, les préparatifs sont en cours pour le lancement de la cinquième opération qui sera mise en ligne dans les prochains jours sur la plateforme numérique. L'objectif est de répondre aux besoins des investisseurs. Je les rassure, il y aura bien d'autres assiettes foncières à leur disposition.
Le même responsable, la zone industrielle Ouled Ghassem Ain Mlila s'étend sur une superficie de 400 hectares et compte 666 lots. De Moulbouagui, Nassar Benissam pour Alger chaîne 3.
Voilà qui confirme ces nouveaux projets, ces nouvelles unités de production, cet essor économique considérable. Voilà dans la wilaya d'Homme-le-Boisguil. Merci Nassar Benissam. Il est 17h44 sur Alger chaîne 3. On vous rappelle notre numéro de téléphone 021 48 15 15. Est-ce qu'il y a des bouchons? Est-ce qu'il y a des ralentissements là où vous êtes? Est-ce que c'est plutôt fluide? À vous de nous le dire. Il suffit de nous appeler au 021 48 15 15. Ça sera le point route.
L'info route.
Tarantella, hey mambo, no more mozzarella.
Un joyeux mélange énergique de rythme latino chanté dans les années 80-70 par Sophia Loren, par Dean Martin et à l'origine dans les années 50 par une certaine Rosemary Clooney sur la branche des Clooney. Voilà, elle est peut-être l'ancêtre d'un certain George, lui aussi amateur de bon café noir. Il est 17h47 minutes sur Radio Chantron. Vous êtes en 021 48 15 15 pour le point route. Let the rhythm take you there. Hey Mambo, et c'est confirmé, il suffisait de chercher un peu sur internet, Rosemary Clooney qui a chanté la version originale, elle est bien la tante paternelle de George Clooney. What else? Comment pourrait le dire? 17h49 minutes sur Algie Chain 3021 48 15 15, notre numéro de téléphone pour le point route. Je vous rappelle l'info, le sommaire à 18h et juste après l'actu sport.
Midnight breeze,
17h53 minutes sur Alger, chaîne 3. Les petites infos qui peuvent être utiles pour les automobilistes, en tout cas ceux qui ont des voitures à parler, et c'est généralement le cas. C'est à travers des nouveaux bruits inhabituels dans votre véhicule qu'on sait qu'il y a sans doute un dysfonctionnement, un problème sur sa voiture. On se fie sur ces nouveaux bruits qu'on n'entendait pas avant. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à des petits bruits qui sortent de votre réservoir à essence, à carburant, sorte de mini-explosion, voilà, sous la voiture, au niveau de votre réservoir. Et qu'est-ce qui le confirme au moment où vous ouvrez le bouchon du réservoir pour mettre le plein? Vous avez de la pression qui sort de ce réservoir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a de la surpression dans votre réservoir. Pourquoi? Dans les anciens modèles, les bouchons du réservoir, eh bien, il y avait une petite soupape qui laissait échapper ces vapeurs d'essence qui s'accumulaient surtout lorsqu'il faisait chaud. Aujourd'hui, sur les nouveaux modèles, pour des soucis de pollution, il n'y a pas de soupape. Ces vapeurs ne sortent pas par le bouchon. Mais par où passe-t-il? Il y a une sorte de mécanisme dans votre moteur véhicule. Il y a une petite valve qu'on appelle l'électrovanne qui active un système pour aspirer à travers un tuyau et un boîtier des vapeurs qu'il y a dans le réservoir. Il arrive que cette électrovanne qui est sur le moteur ne fonctionne pas bien et qui n'aspire pas assez ces réservoirs d'essence. Ça peut être dangereux au moment où on ouvre le bouchon d'essence. Donc il faut aller voir un mécano si vous avez des mini explosions, des bruits dans le réservoir. Vous ouvrez, il y a de la pression qui sort, donc ça peut endommager même la pompe à essence. Pensez à aller voir un mécanicien et parlez-lui de cette fameuse valve qui commande ce qu'on appelle le canister. Le canister sur les nouveaux modèles, bien, et se trouve sous la voiture, sous le châssis, à côté du réservoir. C'est un boîtier par où passe les vapeurs d'essence. Il est 17h56 minutes sur Alger, chaîne 3. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. On écoute Craig David, Walking Away.
Sleepless night.
Mercredi 13 mai, il est 18h, vous êtes chez vous, c'est le Mac 17-19 sur Alger, chaîne 3 au plus près de l'info et de l'actualité, et c'est l'heure du sommaire. Et nous retrouvons Nariman Mendel pour le sommaire du journal de 19h. Bonsoir Nariman.
Hakim, bonsoir Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce mercredi 13 mai, marquée par cette audience accordée par le Président de la République au ministre de l'Intérieur et des Affaires fédérales de Somalie. Au sortir de l'audience, Ali Youssef Houch a rappelé le soutien de l'Algérie à l'unité territoriale, à la souveraineté de la Somalie, mais également au développement du pays. Après 3 jours de visite d'État, le président de l'Angola a quitté l'Algérie cet après-midi. Durant sa visite, il a été reçu par le président de la République. 11 accords ont été signés pour renforcer les relations bilatérales. Le Premier ministre Siferiyeb réunit aujourd'hui son gouvernement. Dans la réunion hebdomadaire, l'exécutif a passé en revue plusieurs dossiers. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de l'ANP, général d'armée Saïd Chengreha, supervise en 3e région militaire un exercice tactique avec munitions réelles Fakhr 2020. L'Algérie avance à pas sûr pour renforcer sa souveraineté économique, affirme l'édito El Jaysh de ce mois de mai. Les avancées réalisées dans la bataille du développement sont un hommage au sacrifice de nos aïeux, relève l'édito. Fini les déplacements à la caisse des retraites pour déposer son certificat de vie. Une application électronique permet d'effectuer la démarche en ligne et de prouver que le retraité est toujours en vie. À l'approche de Eid al-Adha, les citoyens ayant acheté leurs moutons via l'application Adahi commencent à les récupérer. Les points de vente sont ouverts et bien encadrés. Nous suivrons un reportage dans l'édition. Dans le monde, les yeux sont rivés sur Pékin. La capitale chinoise accueille aujourd'hui le président américain. Le dossier iranien, Taïwan, mais aussi l'énergie et les terres rares devraient être au cœur des discussions entre Xi Jinping et Donald Trump. La situation au Moyen-Orient pèse sur les cours des hydrocarbures. L'or noir est dans le vert. Le baril de Brent tourne autour de $106. L'OPEP prévoit une baisse de la demande mondiale en 2026. En culture, le monde du théâtre est en deuil. L'acteur Kamel Zrara est décédé aujourd'hui à l'âge de 59 ans. Il a joué notamment dans les sitcoms Temusha ou Dumei Family. Ses amis du monde artistique rendent hommage à un grand acteur et à un homme aux grandes qualités humaines. Et en sport, l'actualité sportive continentale très chargée. En ce mois de mai, plusieurs championnats d'Afrique des nations se déroulent en ce moment pour le cyclisme au Nigeria, l'athlétisme au Ghana et l'haltérophilie en Égypte. En football, après son match de mise à jour de championnat hier, l'USM Alger s'est envolée aujourd'hui pour le Caire où elle va jouer la finale retour de la Coupe de la CAF samedi prochain. Tous ces titres seront développés dans l'édition de 19h. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Hakim Bey pour la météo. Hakim, bonsoir.
Bonsoir et du beau temps.
De beaux nuages blancs et cotonneux sur un fond bleu, un peu comme une décoration de papier peint. Voilà à quoi ressemblera le ciel pour cette fin d'après-midi durant votre soirée. Et on gardera généralement un ciel très peu nuageux avec de belles températures, une moyenne de 15 à 17 degrés à Alger, à Boumerdès, à Tipaza, 17 à Oran Mastran et Ma'in Timouchent, autour de 12 à 13 degrés à Tlemcen, à Saïda, à Tialet, Naama, Mechriya, jusqu'à 15 degrés à l'est, 16 près des côtes Al-Qala, du côté de Jijel, Annaba, il fera 14-15, du côté de Pessa jusqu'à 27-28 durant votre soirée et la nuit, du côté de Mriyer, du côté de Biskra, à Alouad, 29 degrés, une moyenne de 30 à 34 degrés à Janet Elizi, à Dara, Timimoun, Hassim Saoud, Inamenas, Bojbadi Mukhtar et Ingezem. Le vent soufflera près de 25 à 29 km par heure. Il sera de secteur ouest. Demain, on nous annonce on a quelques pluies durant l'après-midi et ça devrait gagner un petit peu d'espace sur les régions intérieures du pays et le Nord Sahara, la Sahara au courant de la journée.
Never get to heaven, 'cause
LP Lost on You pour accueillir notre ami Jafar Meddour qui va nous informer les dernières news sport. Jafar, bonsoir.
Bonsoir Hakim Bey.
Championnat d'Afrique, cyclisme, athlétisme et haltérophilie au programme.
Ah oui, c'est très très chargé en ce mois de mai. Il y avait juste d'ailleurs la semaine passée les championnats d'Afrique de natation notamment. Et ben là on va s'intéresser, comme vous l'avez dit, au cyclisme et déjà des médailles tombées pour la délégation algérienne avec Yacine
Hamza. Nigeria.
Au Nigeria, absolument. Ça se passe à Abuja, au vélodrome d'Abuja. Il y a déjà eu cette médaille d'or pour Yacine Hamza, une médaille d'argent pour Abdallah Hlel, et une autre médaille d'or remportée devant le Bénin et le Nigeria. C'est par l'équipe algérienne de vitesse, composée du trio Yasmine El-Meddah, Malek Meshab et Sihem Bousbaha. Il s'agit donc d'une médaille remportée par cette équipe d'Algérie de cyclisme par vitesse pour les féminines. La compétition a débuté le 10 de ce mois et prendra fin le 17 mai. Donc je vous le rappelle, ça se passe au Nigeria. On va également s'intéresser à l'athlétisme. Désillusion malheureusement pour Diha Boudoumi qui dominait le décathlon avant de perdre la première place suite à l'épreuve du saut à la perche. Et les détails, c'est avec Malik Louahla.
Le décathlonien algérien Diha Boudoumi est en train de voir le titre africain lui échapper. Après avoir complètement raté la 8e épreuve de ce décathlon, à savoir le saut à la perche, une épreuve où il a comptabilisé 0 point, Diha Boudoumi qui a dominé pourtant ce décathlon jusqu'à cette fatidique épreuve et dégringole logiquement de la première à la 4e place, laissant l'athlète ivoirien Nicolas Heuss prendre seul la tête du classement avec 6024 points. Diha Boudoumi qui comptabilise désormais 5494 points aura du mal à revenir sur le podium tant la concurrence demeure féroce lors de ce championnat d'Afrique. En ce moment même, la finale du 100 longueurs messieurs est en cours avec notamment la participation de l'athlète algérien Tarek Hossein qui s'était qualifié hier avec un saut à 7m75 et devra aller bien au-delà de cette marque pour prétendre à une éventuelle place sur le podium, tout comme sa compatriote Zahra Tatar au concours du lancer de marteau féminin qui est en train en ce moment même de prendre part à la finale du concours et tente de défendre son titre africain décroché, rappelons-le, au Cameroun en 2024.
Eh bien, merci Malik. Et justement, vous parliez de Zahra Tatar. Eh bien, après son premier essai, elle occupe la première place de cette finale du lancer du marteau avec un jet mesuré à 60m86. Donc voilà pour les résultats à chaud, sans oublier le concours du saut en longueur avec Tarek Hossein. Il est actuellement troisième après le premier saut mesuré à 7m86 et il a même battu son record personnel. Donc voilà, on aura plus de détails dans nos prochaines éditions avec Malik Louahla. Et il y a également, comme autre championnat d'Afrique en ce moment qui se déroule, celui qui concerne l'haltérophilie avec une première journée aujourd'hui donc au Caire qui malheureusement n'a pas vu de médaille puisque la première Algérienne engagée, Inès Driss, a terminé à la 7e place dans la catégorie des moins de 58 kilos. Plus de détails, c'est avec Ali Hamouch.
Entrée en lice ce mercredi de la sélection algérienne d'haltérophilie au championnat d'Afrique qui se déroule dans la ville d'El Ismaïlia en Égypte. Honneur aux femmes, ce sera Driss Inès qui sera la première haltérophile à monter sur le plateau dans la catégorie des 58 kilos. Médaille d'argent l'année passée lors du championnat d'Afrique junior, Driss Inès, âgée de 18 ans, prend part à son premier championnat d'Afrique senior. Une occasion pour elle de se frotter au niveau supérieur et d'acquérir de l'expérience. Sur la participation algérienne, on écoute le directeur technique national d'haltérophilie, Mohamed Bouabbach.
Nous avons préféré choisir les athlètes qui sont prêts à avoir des médailles à ce championnat. Donc nous avons d'autres athlètes qui ne sont pas prêts à 100% et surtout révisant les rankings, le niveau il est très, très, très élevé. Donc surtout, c'est des athlètes qui se préparent comme l'Algérie pour les championnats du monde qualificatifs aux Jeux Olympiques. Il y a d'autres pays qui sont concernés par les Jeux méditerranéens. Donc c'est une étape de test pour les athlètes prêts pour prendre part à ces événements. Donc c'est ça notre objectif. objectif.
Suite à la réunion technique qui s'est tenue lundi, le programme des trois autres haltérophiles algériens sera le suivant. Jeudi, ce sera au tour de la seconde haltérophile algérienne d'entamer la compétition, en l'occurrence Doua Bou Abdallah chez les moins de 77 kilos. Jeudi, place à la compétition, messieurs, avec la présence de Fers Touiri dans la catégorie des moins de 94 kilos. Et enfin, vendredi, le dernier représentant algérien fera son entrée, à savoir Ayman Touiri chez les moins de 110 kilos.
Et ça, c'était pour la musique. Hier, on s'en était amusé de cette musique dynamique. Maintenant, concernant, ça, c'était la programmation présentée par les Hamouches. Et pour la journée, donc, de ce mercredi, les détails des résultats et des performances réalisées par Inès Driss, on reste toujours avec Ali Hamouche.
Driss Inès a terminé le concours d'haltérophilie dans la catégorie des moins de 63 kilos à la 7e et dernière place. Au-delà de ce classement, les performances réalisées par cet athlète qui revient d'une méchante blessure sont satisfaisantes. Il faut rappeler que Driss Inès est encore une junior et sur ce championnat d'Afrique, c'est la deuxième plus jeune haltérophile dans sa catégorie. Driss Inès a battu 4 records d'Algérie dont 3 en junior. À l'arraché avec une barre à 71 kilos, l'ancien record était de 69 kilos. À l'épaule jetée avec une barre à 90 kilos, l'ancien record était de 89 kilos. Et au total, avec 161 kilos, l'ancien record était de 152 kilos. Driss Inès a battu également un record chez les seniors à l'épaulé jeté. Sur le passage de Driss Inès, on écoute le directeur technique national, Mohamed Bouabash.
Concernant la performance de l'athlète Driss Inès, c'est une jeune aligné en 2008. Elle revient d'une blessure après les Jeux islamiques. Elle a porté le plâtre pendant 2 mois. Elle vient de reprendre, mais alhamdoulilah, c'est une athlète compétitive. C'est une athlète de compétition. Elle a battu ses records. Elle a fait 87 kilos au jeu islamique. Maintenant, elle a fait 90 kilos à l'épaule jetée. Alhamdoulilah, c'est une performance qui mérite d'être félicitée. En attendant d'autres stages, Inch'Allah, les performances vont s'améliorer au fur et à mesure, avec le temps, avec l'expérience de l'athlète. Donc, elle a fait 71 kilos à l'épaule jetée et 71 kilos à l'arraché, 90 kilos à l'épaule jetée. Dans la catégorie des 63 kilos.
Ce jeudi, ce sera au tour de la deuxième haltérophile algérienne de faire son entrée dans la compétition à partir de 14h. Il s'agit de Doua Bou Abdallah dans la catégorie des moins de 77 kilos. En attendant, bien évidemment, les messieurs Fers Touiri programmé pour vendredi et Ayman Touiri qui sera en compétition ce samedi.
18h18, on passe au football. Jafar Bedour et les Usmistes qui y ont déjà la tête au Caire.
Oh, je pense qu'ils ont depuis très longtemps, enfin du moins depuis cette qualification aux dépens de l'équipe de l'Olympique Safi. Donc le match aller, souvenez-vous, c'était la semaine passée au Stade Olympique du 5 juillet, victoire 1 but à 0 de l'USM Alger à la toute dernière seconde, et ils se sont envolés cet après-midi destination l'Égypte où le Zamalek les attend pour cette manche retour. Et Badis Boufaroua était à l'aéroport international d'Alger. Il a pris des impressions du joueur congolais de l'USM Alger, Glody Likonza.
Ah, d'abord, un final, ça se gagne, ça se joue pas.
Vous avez déjà gagné la finale aller, mais je voulais dire pour la finale retour. Est-ce que vous allez pour vous imposer à l'extérieur ou vous allez pour, quel que soit le résultat, revenir avec le trophée?
Pour nous, le plus important, c'est d'abord de ramener la trophée. Les restes, on verra. 1-1 ou bien 2-1, on verra.
Ok, merci beaucoup.
Voilà, qu'est-ce qu'on attend d'une finale? D'avoir le trophée,
tout simplement. Tout simplement, oui.
Même si on perd les deux matchs 6-0 et 4-1, mais si on, à la fin on a le trophée, je ne sais pas par quel miracle, tout le monde sera content. Mais l'USM Alger a les moyens d'aller faire un gros match au Caire. On a gagné 1-0 ici à domicile. Et ben, on va voir surtout comment l'USM Alger va
gérer la pression déjà.
Il y aura la pression, bien sûr, du public Kairot. Il y aura à peu près 40 000 supporters égyptiens. Il y aura quelques supporters algérois, algériens qui vont faire le déplacement aussi au Caire. Ils seront nombreux. Souvenez-vous, les supporters du CRB lors de la demi-finale retour contre cette même équipe du Zamalek, ils étaient 800 supporters du CRB au Caire. Donc, il y aura peut-être autant, voire plus de supporters de l'USM Alger. On l'espère en tous les cas. L'USM Alger en aura besoin d'avoir ses supporters avec lui pour les encourager, pour les soutenir. Et on verra si donc l'USM Alger sera capable de réaliser la même performance qu'en 2023, c'est-à-dire de remporter une nouvelle fois la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'est tout le bien que l'on souhaite à l'USM Alger et au football algérien. On va changer.
Handball.
Handball, mais avant, j'ai envie qu'on aille un petit peu se rafraîchir. Ça vous intéresse?
C'est vous qui décidez, bien sûr.
Eh ben, écoutez, je suis le chef d'orchestre. Merci de me donner la baguette. Merci beaucoup.
On se rafraîchit où, alors?
Alors, direction Oran. On va retourner à Oran, mais on va revenir au handball après, puisque ça vous tient au cœur.
D'accord.
Ça, c'est cadeau, c'est pour vous. Il n'y a pas de souci. Mais pour la natation, eh bien, le championnat d'Afrique, c'est terminé. Ce week-end, on a en beauté, c'était vraiment sympa, c'était festif.
Au complexe Minute Hadfi.
Absolument, ouais. Et croyez-moi que toutes les délégations ont apprécié les chansons algériennes.
Les structures, l'ambiance et l'organisation.
Exactement, mais aussi des chansons algériennes qui étaient diffusées par le DJ sur place. C'était vraiment sympa, tout le monde dansait sur les musiques algériennes. C'était vraiment une ambiance très sympathique. Et là-bas, on a fait une belle rencontre. Une rencontre sympathique. Je ne m'attendais pas à voir cette personne sur place. Si, en tant qu'ancien athlète, oui, mais pas la natation en tous les cas. Et ça m'a fait plaisir de recroiser Baya Rahouli, l'ancienne championne du triple saut. Elle a participé.
Vous avez de la chance alors.
Et oui, on a eu de la chance, ça vous pouvez le dire.
Vous étiez au bon endroit au bon moment.
Exactement, comme toujours, comme souvent. On a eu donc l'opportunité de la croiser, de la rencontrer, de discuter avec elle. Ancienne championne du triple saut, plusieurs fois médaille d'or dans les championnats africains, elle a eu des médailles aux Jeux méditerranéens, elle a participé à plusieurs championnats du monde, elle a été plusieurs fois finaliste, elle a été aussi aux Jeux Olympiques à 3 reprises, donc c'est une grande athlète algérienne, c'était pas n'importe quoi, c'est vraiment du lourd, Baya Rahouli. Mais aujourd'hui, elle s'occupe de la natation et il y avait également sa fille qui fait de la natation, ses 3 enfants même, et sa fille participait à une course junior et donc on est parti la voir pendant la course et après on s'est entretenu avec elle.
Elle me tenait à cœur parce qu'en fait, il y a ma fille qui a assisté au couloir numéro 1. Apparemment, elle avait un problème, je ne sais pas c'est quoi, mais bon, elle n'a pas fait son meilleur temps. Mais espérons qu'elle va se reconcentrer parce qu'elle aura d'autres courses d'ici la fin de cette édition. Et elle va se concentrer pour faire ses meilleures perfs, Inch'Allah. C'est sa première participation en Afrique avec les athlètes. Moi, je pense qu'elle a un avenir très, très riche devant elle. Vous savez, la natation en Algérie, c'est pas quelque chose de vraiment qu'on s'occupe. J'essaye de lui montrer le chemin. J'essaye de le faire, mais doucement, vu qu'elle aura son bac cette année. Donc, du coup, l'entraînement, c'est pas vraiment ce qui fait de haut niveau. Mais quand même, elle garde, je veux qu'elle garde un minimum du niveau. Comme ça, quand elle passera au senior, quand elle aura son bac, elle aura son mot à dire, Inch'Allah.
Qu'est-ce qui s'est passé du triple saut au bassin?
En fait, il y a mes enfants qui ont choisi la natation, un sport que moi, je n'y étais pas. C'est la grande fille qui a montré le chemin. Maintenant, j'ai 2 nageurs à la maison et le 3e en chemin. Donc, du coup, vous allez me trouver tous les championnats d'Algérie qui vont exister. Donc, voilà. Compte tenu que je me déplace avec les enfants, avec mes enfants et tout ça, là, je me retrouve en train de prendre en charge la section de natation Mouloudia d'Alger. Donc, je suis la présidente de la section natation Mouloudia d'Alger, à qui il y a un groupe très sérieux et on a beaucoup de jeunes talents. Bon, on a gagné cette année déjà. On a gagné les championnats d'Algérie Benjamin, Cadet, Junior, Senior. Senior, non, on a fait 2e après le CRB. Et on a gagné l'Interclub. Et là, on domine un peu Alger avec nous jeunes. Et j'espère qu'on aura d'autres succès, Inch'Allah, pendant cet été-là.
On espère de voir un jour vos enfants aux Jeux Olympiques comme la maman.
C'est mon souhait, en fait, de voir mes enfants participer aux Jeux Olympiques. Et comme ils disent, eux, on va dire qu'ils ont suivi sa maman, leur maman. Ils vont se dire que c'est leur chemin. Ils veulent choisir ils ont choisi un chemin. Loin de mon expérience, de ma spécialité, mais je suis très fier d'eux parce que quand même, ils sont en train de réussir dans ce qu'ils font.
Eh bien voilà, c'était donc Baya Rahouli qu'on a pu rencontrer. Vous l'avez entendu?
Généralement, c'est les parents qui mettent les enfants dans le bain. Là, c'est le contraire.
Là, c'est le contraire, vous
c'est
pouvez
les
dire.
Enfants qui ont mis leur maman dans le bain.
C'est exact,
de la natation.
C'est exactement ça. Elle qui était dans l'athlétisme, bon, ça reste des sports olympiques très importants. Et puis, vous l'avez entendu, elle est maintenant présidente de la section natation du Mouloudia d'Alger. Bon, on souhaite bonne continuation à Baya Rahouli et à tous les nageurs, parce que c'est un sport très compliqué. Il faut voir le sacrifice que font les parents pour leurs enfants pour qu'ils puissent les emmener très très tôt dans une piscine disponible s'il y en a une, dans le meilleur des cas. C'est plusieurs dizaines de kilomètres à faire, il faut se lever très tôt, ensuite il faut s'entraîner très, de manière très, très assidu, je voulais dire. Ensuite, il y a l'école, les horaires d'école, et il faut étudier toute la journée, retourner s'entraîner.
Faut jongler un petit peu.
Voilà. Ah, ils font jongler dans l'eau, c'est pas évident de jongler dans l'eau. Donc, force et respect à tous ces athlètes et à tous ces parents, ces bénévoles qui sont derrière les carrières de leurs nageurs. Et s'il n'y avait pas les parents, croyez-moi qu'on n'aurait pas beaucoup de nageurs et de nageuses à un tel niveau de compétition. Donc c'est vraiment,
c'est les meilleurs et c'est les premiers supporters.
C'est ça, les meilleurs et les premiers supporters. Mais c'est vraiment les parents, il faut saluer leur sacrifice qu'ils font pour leurs enfants, car sans eux, il n'y aurait pas eu autant de médailles lors des championnats d'Afrique à Oran qui viennent de se terminer.
Le handball,
le waterpolo ou le handball? Ah. Non, le handball, vous avez raison, parce qu'on peut jouer au handball dans l'eau, ça s'appelle le waterpolo.
Oui.
Voilà, donc il y a aussi un projet de mettre en place un championnat de waterpolo, même au niveau de l'Africa Aquatique. Donc ce sont des grands projets à mettre en place pour la natation africaine, mais aussi algérienne. Et pour le waterpolo aussi, c'est une discipline olympique. Pourquoi ne pas avoir un championnat, une équipe nationale capable de se qualifier pour les JO, pour différents championnats internationaux. Donc, pour le handball, hier, on avait parlé de la première conférence de Monsieur Raúl Alonso.
Nouveau sélectionneur
hispano-germano, on va dire. Mmh. Il a les deux cultures, vous l'avez entendu, avec son accent allemand, etc. Il nous a parlé du handball espagnol, du handball allemand qu'il maîtrise sur les bouts des doigts. Donc, hier, il y a eu la première séance d'entraînement. Malheureusement, au moment de cette conférence de presse, on n'avait pas la liste des athlètes, ce qui n'est pas normal. On a posé la question, on attend la liste, on nous a dit que elle sera publiée dans la journée, donc après la conférence de presse, ce qui n'est pas normal puisque on veut savoir qui sont les athlètes qui ont été retenus. Quand il n'y a pas Abdi Ayoub, meilleur joueur de notre équipe qui joue à Nantes, qui joue la Ligue des Champions chaque année, il est absent de ce stage. On n'en connaît pas les raisons. Il y a également l'absence de Bastien Carmouche, pivot à Dijon en division 1 française, le demi-centre Mustapha Hadsadour, qui joue également à Dijon dans le championnat de France en première division. Daoud Hichem n'est pas là. Il y a également l'absence de Salim Mezaza, un gardien qui jouait en deuxième division française et qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu lors du dernier championnat d'Afrique des Nations. Moi, on aurait au moins aimé poser des questions pour savoir pourquoi ces absences, pour quelles raisons. Il n'y a pas de problème.
Quelle est l'alternative aussi,
L'alternative,
où est-ce qu'on va se trouver
Ça aurait été intéressant de savoir. Il y a aussi Bouhadjadja, un arrière droit qui joue en deuxième division française, qui là on a eu la réponse en off, c'est qu'il ne répond pas au télé, il n'a pas répondu aux appels. Bon, voilà. Et pourquoi, ça, on n'en sait pas. Donc, on n'en sait rien, malheureusement. Donc, voilà, des absences justifiées, d'autres dont on n'a pas l'explication, malheureusement. Et l'équipe va partir, donc, jouer deux matchs amicaux à Monastir contre la Tunisie, donc le 16 et le 17 mai. On verra ce que ça va donner. Oui, on verra ce que ça va donner concrètement sur le terrain. Il faut rien ça. On ne peut pas s'attendre à grand chose. Un nouvel entraîneur qui découvre un nouveau contexte n'a pas de baguette magique, comme il a rappelé en conférence de presse, Raúl Alonso. On verra ce qu'il sera capable de mettre en place dans un temps si restreint. Mais on espère surtout que les joueurs vont adhérer à son discours. Est-ce que lui son projet, est-ce qu'il a un projet à mettre en place? On imagine que oui, c'est un professionnel. Il connaît son travail. Est-ce que lui va trouver les mots justes pour remotiver les troupes? Car lorsqu'on sort d'un championnat d'Afrique aussi moyen sur le plan du contenu, avec une quatrième place peu honorable, mais suffisante pour se qualifier pour les prochains championnats du monde de 2027 en Allemagne, chez Raúl Alonso, dans son pays, mais on espère qu'il va réussir à trouver les mots justes, les mots forts, à les remobiliser pour aller avec lui dans le projet qu'il veut mettre en place. Et on espère donc que les joueurs vont être très réceptifs à ce projet et que tout le monde aille dans le même sens pour l'intérêt de l'équipe nationale. Et on espère que d'ici le championnat d'Afrique des Nations de 2028, on aura une équipe cohérente, une équipe, j'ai envie de dire, potable, qui sera capable dans un premier temps d'aller retrouver le podium africain, car c'est même très très important d'être sur le podium en 2028. Le premier qui sera l'Égypte, il n'y a pas de débat, il n'y a pas photo. Ils vont aller directement se qualifier pour les prochains championnats, les prochains Jeux Olympiques qui auront lieu donc 6 mois après en été à Los Angeles. Les deuxièmes et les troisièmes seront qualifiés pour le tournoi de qualification pré-olympique. Et donc ça va être compliqué d'aller arracher sa qualification au jeu contre des très bonnes équipes européennes, mais ça vous donnera au moins 3 matchs de haut niveau dans votre programme de préparation. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Il faut donc à tout prix avoir une équipe cohérente pour 2028 et on verra d'ici là, il y aura des stages, des matchs amicaux, on verra si on est capable de monter une équipe pour la CAN, le CAN, car c'est le championnat d'Afrique des Nations 2028.
Merci pour toutes ces explications, Jafar Madouri. Il est 18h, pratiquement 30 minutes. We'll be right back. 20h34 minutes, un petit clic sur l'onglet culture et une exposition qui va très certainement vous intéresser. Mohamed Temam, figure majeure d'un siècle d'art visuel en Algérie. C'est le Musée national des antiquités qui accueille une exposition à celui qui fut son premier conservateur ou un des premiers conservateurs juste après l'indépendance. Une des figures marquantes de la miniature algérienne et de la peinture également. Mohamed Temam, c'est le sujet, la rencontre de Nadia Siesi.
Mohamed Temam nous quitte le 15 juillet 1988. Il est l'élève de Omar Hassim après des études de l'École des Beaux-Arts d'Alger et de l'École des Arts Décoratifs de Paris. Il devient l'un des rares artistes plasticiens à avoir maîtrisé la miniature et l'enluminure. En 1963, il a été le premier conservateur algérien au Musée National des Antiquités où sont exposées ses œuvres. Témoignage de Tahar Boukeloui, l'un de ses élèves.
Comme j'étais élève, je l'ai côtoyé, je connais la personne, le peintre, le conservateur, le musicien. Après mes études d'un an aux Beaux-Arts, en 75, j'ai eu la chance d'avoir une bourse à Téhéran. J'ai étudié donc à l'université de Téhéran avec le grand professeur Mahmoud Farchian, toujours dans le domaine de la miniature. J'ai eu encore la chance de voyager aux États-Unis où j'ai fait l'université de Boston dans le domaine toujours comment enseigner là, mais toujours est-il que Mohamed Temam reste pour moi l'un des maîtres qui m'a influencé le plus dans ce domaine. Mohamed Temam n'était pas seulement un éducateur, il était aussi un artiste. Il a fait la miniature, il a fait l'enluminure. À la fin de sa vie, il a touché même à la peinture du chevalet. Il nous appartient à nous maintenant de faire évoluer cet art qui est la miniature et l'enluminure. Et il m'appartient aussi d'avoir ma propre personnalité.
De quelle manière est représenté le patrimoine dans les œuvres de Mohamed Temam et dans vos œuvres aussi?
Dans les œuvres de Mohamed Temam, c'est très clair. Nous avons par exemple une de ses miniatures qui est très connue, qui s'appelle le Brodeur. C'est une scène extraite directement de notre patrimoine ancien.
Un point très important, Mohamed Temam a réalisé beaucoup de timbres. Sidi Ali El-Harach, philatéliste.
Mohamed Temam a été un excellent, un grand artiste. Il a œuvré pour le compte de la poste algérienne, les services de poste, pour la réalisation et la conception de timbres. Durant toute sa vie, il a réalisé une soixantaine de timbres, touchant à plusieurs aspects de la société algérienne, aussi bien sur le patrimoine que sur le monde politique. La première émission de Temam a été en 1968, une émission avec trois timbres postes pour les instruments de musique. Et le choix a été porté sur des instruments typiquement algériens, particulièrement le Qawitara, instrument utilisé chez nous à Tlemcen et dans la musique andalouse, le Qawitara, ou l'Oud, ou le Rubab. Et par la suite, il y a eu pas mal d'émissions sur le patrimoine, sachant que lui-même était conservateur du musée, donc il touchait beaucoup plus à tout ce qui était art, tradition et culture algérienne. Donc nous avons une partie des armes algériennes, l'Asliha al-Jazairiya fil Fatrat al-Othmaniya, et ça, on pouvait en conclure qu'il y avait une période où l'Algérie produisait ses propres armes, donc il y avait une industrie d'armement déjà.
Quant à Sidi Ali Temam, son neveu compte relancer la fondation Temam.
On avait créé une fondation il y a quelques années, ça. Là, on va la relancer, on va entreprendre des activités qui feront entretenir sa mémoire et son œuvre, et tout marchera au mieux.
L'exposition à la mémoire Mohamed Temam est visible au Musée national des Antiquités où se trouve l'ensemble de ses œuvres. L'exposition se poursuit jusqu'à la fin de ce mois.
J'espère que vous pourrez vous organiser pour profiter de cette exposition. Merci Nadia Siesi. Il est 18h38 minutes.
للقلب هوالو بهم مشطون كيف الفراد وقدر نعمل غني العالي يا إلي ومالي السبب اللي نصرفه الوعد بمجاله لازلت من لازم الصبر صبر يصبر لعيس في الليالي أيلي ومالي رفت حمول الهوى وتقدرت بحماله عذروني يا أهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي أيلي ومالي سيروا خلي وكل حالي سير على حاله لوموني هكذا بحالي وانا بجو رايحين داني شاكي باكي من هموم قلبي وهوانو ترامون الغرام جاية ترى حالو يعود سالي ترى يبقى هميم هايم لما يحلانو لو غرام دماغي ضان على العاشق ما كان يحللو طوح كسرى على نصالو يا ما قسم على هلالي الهلالي الهلالي ومطوع سيف والغلام والعبسي ومثالو عذروني يا هلي ولاش تلوموني هكذا فحالي 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 سيروا خلي وكل حالي سير على حالي سيروا خلي وكل حال يسير على حال عذروني يا أهلي ولاش تلوموني هكذا حالي يسير على حال عذروني يا أهلي ولاش تلوموني هكذا حالي سيروا خلي وكل حال يسير على حاله سيروا خلي وكل حال يسير على حاله
Escale culture pour ce magazine, c'est Ali Fares qui nous emmène au TNA, au Théâtre National, et nous invite à traverser, à passer le portail de l'imaginaire.
Mourad Bourti, ou plutôt Jacques Bourti de l'illusion, a transformé hier le Théâtre National Mahiddine Bastazi en un navire immobile voyageant vers l'impossible. D'un geste de main, les foulards changent de couleur. Ils manipulaient l'émerveillement avec une élégance rare, prouvant que la magie est ce langage universel qui répare un instant toutes les fatigues du quotidien. L'artiste magicien Jad Bourti.
La magie, ça reste quelque chose de merveilleux. On dit que généralement en Algérie, que pour les petits. Alors que non, pas du tout. La magie, c'est la reine des arts. C'est vrai que ça émerveille les gens. Les gens, quand ils sont devant un tour de magie, ils se posent des questions. C'est de l'art et c'est simplement des tours. Des gens qui ont inventé des tours, qui ont pensé et ils ont trouvé des astuces.
Comment vous êtes devenu magicien ?
C'est une bonne question. En fait, déjà tout petit, j'avais peut-être 7-8 ans, déjà, je faisais des petits tours, je fabriquais des cerfs-volants. Et après, j'ai voyagé, et j'ai fait l'école des Beaux-Arts. Et après, je suis parti en France, j'ai terminé. Et là-bas, j'ai rencontré une boutique de magie, quelqu'un qui s'appelait Proust. Et comme il avait besoin qu'on fasse la devanture pour mettre un beau dessin et tout ça, je lui ai dit, voilà, moi je vous fais le dessin. Il m'a dit, combien ? Je lui ai dit, ne me payez pas, apprenez mon petit. Maintenant, je suis parmi les gens qui inventent des tours. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, hein. Il y a 5 maximum.
Comment vous avez trouvé les enfants présents au Théâtre National?
Vraiment, ils sont admiratifs, pas que les enfants, parce que moi, je fais les deux, hein, adultes et enfants. C'est vrai que les gens sortent d'ici émerveillés, parce que c'est vrai qu'on se pose des questions. Comment une personne sur scène, elle disparaît, puis il y a une femme qui apparaît à la place, en fait, des colombes, un poisson rouge, en fait, juste un ruban qui devient un poisson rouge.
Les enfants ont trouvé le spectacle magique.
تحمست للألعاب الأخرى اليوم جايين دالي الألعاب هادوك تاع السحر تاع الحبل عجبني الحال ويا ربي نعاود نجي المرة الجاية.
Jad Porti nous promet prochainement des journées internationales de la magie en Algérie, un projet ambitieux pour que le rêve devienne enfin un rendez-vous annuel.
C'est toujours la promesse d'un moment de bonheur lorsqu'on laisse de la place à la magie. Merci Sidali Fares, 18h45 sur Alger chaîne 3. On a rendez-vous avec les Dames Nacelle pour parler des jumeaux numériques. Mais d'abord, on écoute Maria Carré. 49 minutes, le Mac 17-19 sur Adjation 3. Ces dernières années, on assiste à l'essor des jumeaux numériques dans différents domaines d'activité, dans l'industrie, mais aussi dans l'environnement, le climat et la santé. Avec les dames et la selle, nous parlons aujourd'hui des jumeaux numériques personnels, une nouvelle forme de profil algorithmique avancé.
Le profil numérique classique est en train d'évoluer. Il ne s'agit plus seulement de stocker des préférences ou des historiques de navigation, mais une nouvelle génération de systèmes cherche à construire des modèles dynamiques de l'utilisateur. Je m'explique. Ces jumeaux numériques personnels tentent de simuler les comportements, les choix et parfois même les réactions probables d'un individu face à certaines situations. Concrètement, il s'appuie sur des données d'usage, des interactions et des historiques pour construire une représentation évolutive du comportement. L'objectif est d'améliorer la personnalisation des services, des recommandations ou encore les interfaces de manière générale. Mais cette évolution change aussi la nature du profilage. On ne décrit plus un utilisateur, mais on le modélise tout simplement. D'un point de vue technique, cela repose sur des systèmes statistiques avancés capables d'extrapoler des tendances comportementales. Mais cela soulève aussi des questions éthiques. Jusqu'où peut-on prédire un comportement sans transformer la manière même dont il se construit ? À très vite.
Grand point d'interrogation. Merci Elena Menassel. 18h51 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce magazine en musique. On remercie notre ami Imed qui est à la console technique. Tahalef Goub nous accompagne à la régie. Ali Laouissi à la réalisation, à la programmation musicale. On se fait encore plaisir. Ali Laouissi qui nous gâte avec ses choix, les sons qu'il nous propose. On écoute Katia et Gabriella.
I couldn't catch it. Heart in the casket. You always knew it. The starting role, the main attraction. Got me splashing. Like, ooh. You got everybody's eyes and just you. And I see it too. Yeah, ooh. You can have anyone else you wanted to. I'm begging you. Hands up, Gabriella. Gabriella, hands up, Gabriella. It's like the summer under the covers. Me in the middle, overprotective of my lover. You made me wonder, like, ooh. If you made out of the fantasies come true, what would you do? Yeah, ooh. You can have anyone else you wanted to, but I'm begging you. Hands up, Gabriella. Gabriella, hands up, Gabriella.
18h55 minutes sur Alger Chaîne 3. Restez avec nous pour les 5 dernières minutes. Juste après, eh bien, vous retrouverez l'équipe de la rédaction pour le journal 19h. Et juste après, eh bien, c'est comme chaque mercredi vers 19h après le journal 19h20. Voilà, Rim Rahtelbel qui va vous prendre par la main, vous prendre par le cœur pour un voyage. Voilà, à travers les chants, les musiques et la poésie algérienne. Petite berceuse, belle balade avec Youssoundour, 7 seconds.
Les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent, des impôts.